Cette semaine, 3 trucs pour bien gérer ses mails, 6 astuces pour vous aider à vous réveiller plus tôt et 9 applications très utiles pour la productivité. Alors, bienvenue à l'Eclectic Show. L'Eclectic Show, un podcast qui traite de life hacking, de tech, de médic et de mes découvertes. L'émission est produite aux 2 semaines et les notes de l'émission et les commentaires se retrouvent sur le site l'eclecticshow.com avec le L au début. Revenez souvent, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou sur ma page Facebook. Les liens sont dans les notes de l'émission. Débutons l'épisode maintenant avec 3 astuces pour bien gérer ses emails. La première, c'est tout simplement la règle du 2 minutes. La règle du 2 minutes est assez simple et même applicable sur n'importe quelle tâche. En fait, si un email peut se répondre en moins de 2 minutes, vous y répondez immédiatement à vos emails. Évidemment, quand vous êtes dans une période où vous pouvez le faire, pas n'importe quand, pas avec les notifications qui sont ouvertes, vraiment quand vous êtes en mode écriture, en fait, en mode révision de email, de courriel. La règle des 3 emails, si vous échangez plus de 3 mails avec une personne sur le même sujet, ça c'est le deuxième point, allez le voir, allez y parler tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. La règle du soir, celle qui va vous sauver les nuits, qui va vous sauver vos nuits. En fait, on regarde ses emails et ses courriels du boulot le soir si et seulement si on a le temps d'y répondre. Sinon, on va attendre au lendemain pour mieux dormir. Et au pire, on se met des notes dans les to-do. Alors, les 3 trucs pour bien gérer ses emails, la règle du 2 minutes, la règle des 3 emails, après ça, vous allez voir les gens, et la règle du soir. N'oubliez pas, c'est 3 petites règles pour bien gérer vos emails. Dans l'intro, je vous disais qu'on avait aussi... mais là, en fait, je sais pas pourquoi, je me suis adonné à faire un épisode avec des 6 trucs, 3 astuces et ainsi de suite. Mais bref, on va y aller quand même comme ça. Là, le deuxième point dans le dossier, c'était comment se réveiller plus tôt. J'ai 6 trucs pour vous donner, pour vous aider à vous lever plus tôt. Et 6 astuces, en fait. On sait... Il y a de plus en plus de livres qui le disent, ou tout simplement parce que vous voulez le faire, parce que vous trouvez que vous êtes plus productif le matin. C'est prouvé scientifiquement. Habituellement, il y a une grande, grande quantité de gens qui sont plus productifs le matin. Et ne dit-on pas le matin, c'est quoi oui, c'est ça. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, voici les 6 astuces pour ceux qui voudraient améliorer le fait de se lever plus tôt, ceux qui étirent les matinées dans le lit et qui, en bout de ligne, se trouvent peut-être tristes de manquer une partie de leur journée ou de leur productivité. Ouais, je parle pas des fins de semaine, je parle plus de la semaine où on travaille, où on a des choses à faire. Alors, la première, en fait, une des 6 astuces, c'est de vous donner une raison de le faire. Évidemment, si on n'a pas de raison ou de motivation pour faire quelque chose, habituellement, on n'a pas tendance à tenir ça sur l'habitude ou sur le long terme. Faut comprendre pourquoi vous voulez le faire. Faut vraiment avoir une motivation pour faire la chose. Ça, c'est le premier truc. Donnez-vous une raison. Le deuxième truc, la deuxième astuce, c'est établissez un calendrier et collez-y. Et faut que vous y colliez, en fait. Si vous mettez un réveil le matin, gardez ce réveil-là toujours activé. Si votre réveil est difficile à configurer et où ça prend une application et ainsi de suite, c'est peut-être le meilleur truc. Je m'explique. Moi, j'ai une espèce de bracelet connecté que je garde toute la nuit et qui est quand même... Bon, il est pas excessivement compliqué à programmer, mais ça se fait pas en 2-3 tapes. Là. Faut vraiment aller dans l'application, faire des choses comme ça pour que le bracelet vibre. Ce qui fait que je me laisse jamais la chance de pouvoir arrêter la sonnerie pour le lendemain. Dire, c'est pas grave, je vais étirer mon heure de réveil, je vais appuyer sur ce bouton-là ou je vais appuyer sur le bouton pour simplement ne pas avoir le réveil qui va me sonner dans les oreilles. Non, je fais exprès que le réveil soit très difficile à changer d'heure au niveau de mon application, et ce qui fait que, en bout de ligne, j'ai pas le choix de toujours me lever à cette heure-là. Préparez-vous la veille. Hein, parmi les trucs qui sont super importants pour ça, c'est de vous préparer la veille. Quand on dit ça, ben de faire attention avec à l'heure que vous vous couchez, ça c'est sûr, de prendre le temps de vous coucher, hein, on le sait, pas faire de sport 3 heures avant de vous coucher, essayer de vous coucher toujours à peu près aux mêmes heures, pas d'écran dans le lit, 1 heure avant de vous coucher, ben peut-être faire des choses plus relaxantes, en tout cas pour que vous ayez une bonne qualité de sommeil, pour que vous puissiez être prêt pour le lendemain. En fait, c'est de préparer la veille pour le lendemain. 4. Trouver son rythme. C'est important de trouver son rythme. Ça prend pas 2-3 jours pour pouvoir le faire. C'est une habitude. On veut créer une habitude. Vous pouvez peut-être décaler, si vous voulez vous lever, exemple, à 6 heures le matin, vous pouvez peut-être décaler, et que vous avez l'habitude de vous lever à 8 heures, ben de 8 à 6, c'est peut-être une grosse marge. Fait que trouvez votre rythme. Allez-y doucement. Peut-être... un mois, vous vous levez une demi-heure plus tôt, l'autre mois d'après, une autre demi-heure plus tôt, et ainsi de suite, pour atteindre votre 6 heures réveil. Vous comprenez l'idée que faut pas y aller drastiquement parce que vous allez vous décourager trop trop vite. Des petites victoires, c'est super, super important. 5. Trouvez-vous des récompenses. Vous pouvez tout simplement... vous trouvez des récompenses pour 2 choses, en fait. Dans les habitudes du matin, quand vous allez vous réveiller, d'ouvrir les paupières, c'est déjà un geste, mais après ça, peut-être d'ouvrir les rideaux, de faire entrer la lumière, de couper toutes les sources de nuit pour que la lumière se fasse, pour que votre esprit voit que vous vous réveillez. Vous pouvez faire un petit peu d'exercice pour vous réveiller encore plus. N'oubliez pas votre premier verre d'eau le matin. Mais vous pouvez aussi vous trouver des récompenses. Les récompenses, là, ça peut être le café du matin que vous vous préparez, ça peut être un latte que vous vous préparez, ça peut être une petite surprise que vous vous donnez, ce qui vous donne une motivation de plus pour vous lever le matin. Moi, par exemple, dans mon exemple, tous les matins, je me fais un latte, je vais dans mon vieux fauteuil tout craqué, rouge en cuir, et je commence à lire mon Flipboard. Pas d'autre chose, juste Flipboard, un peu à la manière d'un journal, et je parcours les actualités qui m'intéressent, pour lequel je me suis abonné. C'est ma récompense du matin pour me lever. Évidemment, après le café, l'eau et tout ça, ben, faut prendre un bon déjeuner. Après la nuit, le taux de glycémie de notre métabolisme est à son plus bas. Alors, faut vraiment, pour se sentir réveillé, bien réveillé, que les nutriments, tout ça, commencent à s'activer. Ben, évidemment, faut en manger. Alors, ne pas oublier de manger, de bien déjeuner le matin pour que la journée après ça se fasse comme il faut. On va répéter les 6 astuces pour commencer à se réveiller plus tôt. Donnez-vous une raison, une motivation. Établissez un calendrier, les réveils, et établissez ça, et vous y astreignez. Préparez-vous la veille, ça c'est très important. Trouvez son rythme, 4. 5. Buvez du thé ou un café, en tout cas, trouvez-vous des récompenses. Et 6. Mangez un bon déjeuner. C'est ce qui nous mène tout doucement à la petite pause Tipeee Patreon. Je vous rappelle que si vous voulez m'encourager dans mes productions, soulager certaines de mes dépenses, de factures, de fonctionnement, ou simplement me payer un café, vous pouvez le faire à partir de 1$ ou 1 euro par mois. Pour le faire, c'est assez simple. 2 sites, vous pouvez aller soit sur un compte Tipeee ou soit sur Patreon. Vous avez tous ces liens-là à partir de la page de l'Eclectic Show ou de profduweb.com, et vous cliquez sur le lien m'encourager, et aussitôt après ça, en moins de 2 minutes, vous créez un compte si vous n'en avez pas, et en moins de 30 secondes, vous abonnez à un paiement récurrent de peut-être un mois, $1 par mois. C'est très très suffisant, et ça m'aide beaucoup pour tout ce que je fais, notamment en termes de motivation. Une autre, et pour tous ceux qui l'ont fait, je vous remercie. Une autre façon de m'aider, de m'encourager, bien évidemment, c'est de partager le podcast. C'est de mettre des bons commentaires dans les sites qui permettent ça, de mettre un 5 étoiles sur iTunes si vous avez un iPhone, de partager avec vos amis, vos collègues, le lien du podcast, et d'en parler. Si ça vous apporte quelque chose et que vous n'avez pas nécessairement les moyens de participer ou de contribuer ou de m'encourager monétairement, vous pouvez le faire d'une autre manière, c'est de me partager mon podcast. Allons-y avec les 9 outils informatique un peu que je vous ai préparé pour cette semaine. Le premier, c'est une suite de logiciels pour remplacer Photoshop. On le sait, Photoshop est assez dispendieux. Si vous voulez faire de la retouche de photos, vous avez la possibilité d'avoir Photoshop Express. C'est vraiment des outils d'édition numérique de photos ou d'images qui sont assez dispendieux et qui, en bout de ligne, on utilise comme Word des fois ou Office ou la suite Office, on utilise peut-être à 5% de la capacité. Ce qui fait que des fois, on achète un logiciel, une fortune, et même dans le cas d'Adobe, ben c'est des abonnements récurrents pour utiliser juste une certaine partie du logiciel. Alors, je vous ai trouvé plusieurs alternatives qui pourraient être assez simples à utiliser pour vous et pour lesquelles vous pourriez aller faire le tour et qui sont totalement gratuites. Et c'est pas des choses avec des publicités incorporées ou des logiciels bidons, c'est vraiment des très, très bons logiciels. Le premier s'appelle GIMP, G-I-M-P. C'est vraiment un outil, un vieux de la vieille, on dira, de l'édition numérique. Évidemment, il est apparu plus sur Linux au début, mais maintenant, on le voit de plus en plus sur Windows. Il reprend les mêmes principes très évolués de Photoshop, pas tous les mêmes, évidemment, mais il en reprend beaucoup. Il est super intéressant à utiliser et à apprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de didacticiels. Vous l'avez en français. Et il est très léger. Vous avez aussi une version portable. Alors, si vous voulez l'avoir sur une clé USB, le transporter toujours avec vous, vous pouvez y aller. Ça s'appelle GIMP, G-I-M-P. Pour ceux qui veulent quelque chose de plutôt simple, pas trop, trop compliqué à apprendre, qui sont très, très bons dans Paint, mais qui ont atteint leur limite de compétences avec Paint ou de connaissances avec Paint, je vous proposerai Paint.net. Paint.net, P-A-I-N-T.net, N-E-T, est une application, je vous dirais, l'évolution normale de ce qu'aurait dû être Paint dans Windows. Évidemment, c'est juste disponible sur Windows. Vous pouvez installer ça super simplement. Encore là, lui, vous pouvez pas forcément l'avoir en format portable, mais il fait très, très, très bien le travail. Vous avez, pour ceux qui font du vectoriel, alors le vectoriel, c'est un type d'image qui est... à la différence d'une photo où quand on zoome, on voit que ça pixelise. Bon, ben du vectoriel, ça ne pixelise jamais. C'est toujours parfait parce que c'est vectoriel. Exemple, les polices de caractères sont vectorielles. Si vous zoomez un texte dans votre Internet Explorer ou dans votre Chrome ou dans votre Safari, vous allez voir que les polices de caractères sont toujours parfaites. Même si vous les zoomez à 1000%, vous allez voir que c'est toujours parfait. C'est du vectoriel. Mais on peut aussi faire des images en vectoriel. On peut évidemment faire des logos. Les logos sont souvent en vectoriel. Et pour ça, habituellement, on utilise, dans la suite Adobe et qu'on paye, Illustrator. L'alternative à Illustrator dans le monde open source libre, qui est disponible sur Windows, Mac et Linux, ça s'appelle Inkscape. Lui aussi, très très simple. Non, lui n'est pas aussi simple que Paint.net par rapport à l'édition d'images, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils avancés comme Illustrator. Une personne qui connaît bien Illustrator ou qui a déjà travaillé avec Illustrator ne sera pas perdu avec Inkscape. C'est vraiment l'alternative gratuite. Je vous ai parlé de trois logiciels pour le moment qui font très bien le travail, mais pour lesquels l'interface, moi personnellement qui aime toujours avoir une belle interface dans les applications, me satisfont pas. Ça ne me satisfait pas, ces interfaces-là. Je les trouve vieillottes. Alors, je parlais de GIMP, je parlais de Paint.net puis de Inkscape. Moi, je vais vous parler d'une application que j'ai découverte en format ordinateur qui est disponible sur Windows, qui est tout simplement bluffante pour ceux qui connaissent Photoshop et pour le remplacer encore une fois, et qui non seulement est très bonne, mais aussi est très belle et très bien faite et qui facilement et sans gêne se compare à sur beaucoup d'aspects à Photoshop. Ça s'appelle Krita. K-R-I-T-A. Krita reprend le look un peu sombre de Photoshop que plusieurs aiment, dont moi particulièrement, avec toutes sortes d'outils, et même les outils, généralement les icônes sont assez simples à comprendre. Pour ceux qui viennent de l'univers Photoshop, c'est presque une copie pure et dure de ce que fait Photoshop, et franchement, au niveau visuel, elle est très 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 bien faite. Pour ceux qui voudraient dessiner, qui voudraient faire des animations, qui aiment peut-être cet aspect-là de Photoshop, parce qu'on peut faire des GIFs animés, on peut faire toutes sortes de choses avec Photoshop, Il y a une version gratuite qui s'appelle Easy Comic. Easy Comic, c'est la superposition de plusieurs calques que vous pouvez faire et dessiner à partir de cette application-là. Easy Comic permet de une édition de photos, mais aussi permet de faire de l'édition d'animation. Vraiment, vraiment chouette comme application. Il y a évidemment toutes sortes d'autres applications qui existent, mais je trouvais que ces cinq-là étaient quand même les plus populaires et les quand même les mieux faites. Il y a quand même une équation à faire entre usage, fonctionnalité par rapport à Photoshop, et quand même celles-là, je les ai testées, ils sont vraiment chouettes. Alors je les répète, la première c'est GIMP, la deuxième c'est Paint.net, la troisième c'est pour l'Illustrator ou pour du vectoriel. Photoshop le fait, mais c'est plus Illustrator que vous devez utiliser. Si vous voulez une alternative gratuite, ça s'appelle Inkscape, Inkscape. Si vous voulez vraiment un Photoshop-like, l'équivalent d'un Photoshop avec l'interface, je vous soumettrai le projet Krita, K-R-I-T-A. Et le cinquième, ça s'appelle Easy Comic pour faire plus des animations, je vous dirais, avec des images. C'était ma liste des alternatives à Photoshop. Évidemment, quand on fait du Photoshop, quand on fait du montage visuel, on a besoin habituellement de photos, on a besoin d'images. Alors, on peut se les faire nous-mêmes avec nos appareils photo, ou on peut essayer d'en trouver sur Internet. Et là, il y a des choses qu'il faut faire attention lorsqu'on utilise des photos, quand on fait du montage. C'est les droits d'auteur. Vous pouvez pas utiliser des créations de n'importe qui comme ça sans demander les droits, sans les acheter. Il y a toutefois une règle sur des règles d'utilisation ou d'attribution qui permettent d'utiliser du multimédia gratuitement, en fait, libre de droit. Ça s'appelle du Creative Commons. C'est une licence où quelqu'un crée un produit, une photo, une vidéo, un son, ainsi de suite, et met sa création en Creative Commons. En Creative Commons 4, exemple, c'est l'attribution qui permet la réutilisation gratuitement ou même commercialement de ces images-là ou de ces vidéos, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir avoir la paix d'esprit de la réutilisation des choses. Vous pouvez, à partir du searchcreativecommons.org, search comme search en anglais, Creative Commons, CREATIVECOMMONS.org, disposer d'un moteur de recherche pour fouiller justement ces créations-là libres de droit. Le moteur de recherche est vraiment bien fait. Il permet de fouiller dans des médias, dans des images, dans de la musique, dans des vidéos. Il permet d'aller chercher dans SoundCloud les choses qui sont gratuites, qui sont Creative Commons, dans YouTube, dans Jamendo, dans Google Images, dans Flickr, en vous assurant qu'ils sont libre de droit. Alors, ce moteur de recherche-là, il est vraiment, vraiment très, très utile si vous êtes un créatif et que vous avez besoin, vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer un photographe ou d'acheter des photos, ou même que vous n'avez pas des photos en particulier. Vraiment, vraiment un super bon moteur de recherche. Vous arrive-t-il souvent, vous arrive-t-il des fois d'utiliser votre boîte de courriel? Vous savez, hein, moi c'est un peu quelque chose qui revient souvent. J'utilise le courriel beaucoup, beaucoup pour mon travail, et j'utilise aussi le courriel pour ne pas oublier des trucs. Je m'envoie des choses par courriel, et sur iOS, il y a une application, en fait on va appeler ça un widget ou un outil de partage dans Safari ou à peu près dans n'importe quelle application pour envoyer directement par email. Ça s'appelle Mail to Self, ça veut dire m'envoyer un courriel, m'envoyer un email. C'est une extension iOS et elle permet, à partir de n'importe quelle application, quand vous faites le bouton partage, de faire un Mail to Self, un email à soi-même. Alors, ça vous permet facilement de partager ça et de vous le rappeler directement dans vos courriels. Ça s'appelle Mail to Self et c'est disponible sur l'App Store gratuitement. Attendez, je m'avance sur le gratuitement. Je l'ai, moi, sur mon téléphone et je me rappelle pas si j'ai payé. Alors, j'ai cliqué sur le lien et il ne vient pas à aboutir. Alors, on va... Ah, oh, c'est beau, la page vient d'apparaître. Non, effectivement, c'est gratuit. Très, très bien coté, hein, Mail to Self. En termes d'étoiles, c'est très, très... c'est du 4.5, 5 étoiles en montant. On va y aller avec le quatrième lien tech application qui valait la peine d'être partagé avec vous cette semaine. Ça s'appelle FakeSpot. Dernièrement, j'ai essayé des achats en ligne et je remarque, exemple sur Amazon ou dans l'App Store, des fois, des applications ou des produits qui ont des commentaires trop élogieux pour être vrais. Et je me demande toujours comment on fait pour discerner le bon du le faux du vrai. Et FakeSpot peut vous aider à ça. Ça s'appelle FakeSpot, FakeSpot.com, FakeSpot.com. Et dès que vous trouvez un produit que vous voulez acheter sur Yelp, TripAdvisor, Amazon ou l'Apple Store, ça permet de distinguer si c'est des vrais commentaires ou des faux basés sur un algorithme de reconnaissance de fermes de faux commentaires, parce qu'on le sait, il y a des fermes qui sont spécialisées, on appelle ça des fermes, il y a des gens qui sont spécialisés à faire des faux commentaires élogieux qui sont payés pour en faire. Et qui, ben souvent, utilisent à peu près les mêmes adresses de courriel un peu partout. Et ben FakeSpot analyse ça et corrobore avec sa base de données. Là, ils sont à peu près à 1 136 601 000, et ça n'arrête pas d'augmenter là de commentaires analysés. Alors là, présentement, je suis sur la page et je vois rafraîchir le lien. Là. Automatiquement, il y a une espèce de robot qui analyse tous les commentaires qu'il y a un peu partout sur ces quatre grands sites-là et qui va vous permettre, en bout de ligne, ben, d'avoir la vraie note. Tu sais, quand on, en termes d'étoiles, le vrai nombre d'étoiles que le produit a, et il vous donne aussi une cotation sur le produit. Alors des fois, vous avez un produit, vous mettez l'URL de ce produit-là dans FakeSpot, et FakeSpot va vous dire, ouais, celui-là, je lui attribue une note de C parce qu'il y a beaucoup trop de faux commentaires. Ou, ah, ce produit-là, j'y en accorde une note de B. Ça commence à être beaucoup plus fiable par rapport aux commentaires que je vois sur cette page-là. Alors, si vous faites des achats en ligne, de voyages ou de choses comme ça, ben soyez avisé que FakeSpot est là pour vous aider. Cinquième lien tech et application s'appelle Iris. Iris, I-R-I-S. C'est un logiciel qui va vous aider à... qui va aider vos yeux, en fait, lorsque vous êtes sur un appareil et que vous êtes... le soir ou que vous avez des problèmes de vision, ça va réduire la douleur de vision des écrans. C'est disponible sur Windows, OS X, Mac, Linux, Chrome OS, Android, iOS et le petit dernier Windows Phone qui n'en sera plus un petit dernier trop longtemps. Alors, ça vous aide à améliorer votre sommeil. C'est quoi la différence avec Flux, une application qui réduit les couleurs bleues, là, je vous en ai déjà parlé. C'est que Iris a plusieurs modes de setting, de paramètres par rapport à Flux. Flux fait tout simplement de juste réduire les couleurs bleues à partir d'une telle ou telle heure. Iris, lui, permet tout simplement de changer les couleurs bleues, oui, comme flux, mais aussi permet de d'avoir d'autres types de protection. Alors, il y a une protection pour les programmeurs, bien adaptée pour eux autres. Il y a une protection, la protection pour les programmeurs, ce que ça fait que ça inverse les couleurs, typiquement. Il y a la protection lunettes de soleil, il y a la protection nuit, movie, sleep, reading. Il y a même une protection qui inverse tout en rouge pour pas que vous... pour ceux qui en ont besoin au niveau des contrastes. Alors... cette application-là est gratuite, mais vous pouvez acheter une version pro qui offre beaucoup plus de fonctionnalités. Si je compare les Iris gratuits versus la version pro, j'ai ça dans le... ici. La version gratuite, ben, vous donne 8 températures, 8 programmation, comme je vous parlais tantôt, là, alors réduire les couleurs bleues, le mode programmeur, le mode Navy Seal, un peu là avec la couleur rouge pour ceux qui ont des problèmes d'accessibilité. Bref, ça en donne déjà 8. 4 options d'ajustement d'éclairage et 3 modes. Alors, on a le mode automatique, manuel ou le mode en pause. Avec la version payante, Ça, c'est la version Iris Mini Pro à $5. Puis c'est payé. Il y a la version Iris Pro Health Freak qui, elle, donne beaucoup plus de paramètres, d'intelligence artificielle, de loupe, des choses comme ça pour vous aider au niveau visuel pour vos écrans. Alors, je vous dirais peut-être que Iris Pro et Health Freaks, au niveau de la santé, serait peut-être plus adapté pour des gens qui ont vraiment des problèmes au niveau de leur vision. Tandis que Iris Mini Pro, à $5, lui, va vous permettre de déjà améliorer au niveau de votre santé visuelle. Il y a la version gratuite que j'ai, moi, présentement, et qui fait très, très, très bien le travail. Un petit peu moins de fonctionnalités que les deux que je viens de vous parler là, mais elle fait très, très bien le travail. Alors, peut-être, je vous dirais, essayez la version gratuite. Vous l'avez sur toutes les plateformes et peut-être revenir après ça à une version plus payante qui pourrait peut-être vous aider dans votre visualisation des écrans. Je ne sais pas si on entend trop la souris ou si ça vous dérange. Dites-moi dans les commentaires si vous entendez trop la souris. Moi-même, je m'énerve là présentement. Voilà. Alors, on était au cinquième élément tech un peu. Sixième élément tech, un article, et je suis vraiment content. D'ailleurs, je vous recommande le podcast qui en traite beaucoup mieux que moi. Ça s'appelle le CKB Show. Pour ceux qui aiment l'écosystème Chromebook, avec Chrome OS et tout ça, allez peut-être écouter le podcast CKB Show. D'ailleurs, j'imagine qu'ils en ont parlé dans leur dernier CKB Show ou qu'ils vont en parler. J'ai pas écouté le dernier CKB Show, mais je l'ai dans mon lecteur de podcast, mais je l'ai pas encore écouté. Les premières tablettes Chrome OS commencent à sortir. Alors, on le sait, Chrome OS, c'était plus des petits ordinateurs, pas très chers. Même, il y en a des très chers, mais habituellement, ils sont pas très chers, légers, avec une bonne autonomie. Et un clavier, c'est des petits ordinateurs. Mais là, d'un seul coup, on commence à voir apparaître des tablettes Chrome OS. Et une tablette Chrome OS, ça fait tout son sens parce que le dernier système d'exploitation de Chrome OS vient avec le App Store le Play Store de Google. Et là, vous avez toutes les applications Android plus Chrome OS. Mais ça fait beaucoup plus de sens, je trouve, des fois sur tablette parce que sur tablette, habituellement, on fait des applications, tout va bien. Et des fois, on a besoin de manipuler des fichiers, on a besoin de prendre une clé USB, copier des trucs, et ainsi de suite. Et sur une tablette traditionnelle, on peut moins bien le faire. Avec Chrome OS, c'est terriblement intuitif et ça va très, très bien. Beaucoup mieux qu'un Windows qui serait adapté comme ça. Alors, ça vient de sortir. C'est les premières qui sortent, c'est Acer. Il va y en avoir d'autres. Je vous dis, surveillez ça pour ceux qui voudraient avoir une tablette qui fait pas mal plus de trucs qu'une tablette traditionnelle sous Android. Les systèmes d'exploitation Chrome OS, c'est vraiment chouette. Septième application, nouvelle tech que je voulais vous parler, s'appelle Whiteboard. Tableau blanc en français. Qu'est-ce que fait Whiteboard? Whiteboard.com. Qu'est-ce que c'est Whiteboard? Ben, c'est un tableau blanc, tout simplement. Il a cet avantage d'être partageable sur multiplateforme. Je m'explique. Vous êtes dans une salle de présentation. Vous avez besoin d'un tableau blanc, faire des dessins, des schémas, des carrés, des ronds, et ainsi de suite, pour bien vous comprendre. Des fois, une image vaut mille mots, ne dit-on pas. Alors, vous pouvez utiliser un vrai tableau blanc. Et si vous en avez pas, vous pouvez utiliser un tableau blanc directement à partir de Internet. Alors, Whiteboard offre ça. Whiteboard, quand vous commencez un tableau blanc, va vous donner une URL unique. Cette URL-là unique va être vous allez la partager à toutes les personnes qui sont dans la salle avec vous, ou qui sont avec un projecteur, ou qui sont avec la télé, avec une tablette, ou un ordinateur, ou tout simplement des gens qui sont au téléphone avec vous. Vous envoyez cette URL-là, et en même temps que tout le monde, vous pouvez dessiner sur ce tableau blanc-là. L'URL est unique, ce qui fait qu'il y a que vous qui pouvez l'avoir. Vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez faire des dessins. Quand vous faites un carré, automatiquement, il fait un beau carré. Quand vous faites un rond, il va reprendre pour faire un beau rond. Si vous avez besoin d'autres formes, vous le faites vous-même avec votre doigt. Alors, ça l'usage que j'en vois ou que j'ai fait dernièrement, moi, c'est exemple, on est rentré dans une salle, à une présentation, un écran géant. Et tout simplement, le présentateur a commencé à faire l'écran géant, un dessin sur ce tableau blanc sur l'écran géant, nous a envoyé l'URL et nous, avec notre téléphone, des fois, on pouvait pointer directement un élément de son diagramme, de son graphique. Vous allez voir, whiteboard.com, c'est vraiment hallucinant, fonctionne super bien sur Android, fonctionne super bien sur iOS, des tablettes, sur n'importe quel appareil. Et franchement, c'est stupéfiant. Je sais pas c'est quoi le modèle d'affaires en arrière de ça, mais bref, allez-y, pendant que c'est gratuit, c'est vraiment très, très pratique. Huitième élément que je voulais vous parler, ça s'appelle list.ly. Listly, hein, on va dire ça comme ça. L-I-S-T.L-Y. Qu'est-ce que c'est Listly? C'est un peu... comme beaucoup d'autres sites, c'est du partage de liens. Vous trouvez des liens intéressants, vous créez des listes. Alors typiquement, quand vous faites de la curation, le terme anglais que j'aime moins, mais quand vous faites la, quand vous cherchez, vous dégotez des bons liens, vous pouvez les classer sur plusieurs façons. Et ces listes-là sont automatiquement partagées, partageables. L'avantage, c'est qu'il y en a déjà sur Listly beaucoup plus que vous, qui sont déjà abonnés et qui ont déjà créé des listes. Alors, pour ceux qui veulent découvrir du contenu intéressant, je vous dirais d'aller faire un petit tour sur Listly. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait des listes d'URL, de liens, de médias, et ainsi de suite, par thématique, et c'est vraiment super intéressant à découvrir. Exemple, vous pouvez aller faire Listly sur la productivité. Vous allez voir, il y a plein de personnes qui ont déjà fait des listes sur la productivité. Vous pouvez même catégoriser des liens que vous trouvez dans Listly. Alors, je vous dirais que pour ceux qui veulent faire découvrir peut-être leur article, vous pouvez les mettre dans Listly. Pour ceux qui veulent découvrir des sujets sur un thème proposé dans Listly, allez faire un tour, c'est gratuit. Il y a une version payante pour créer plusieurs listes, pour créer plusieurs liens, et ainsi de suite. Allez voir, la proposition est intéressante, c'est nouveau. Dans mon cas, je viens de le découvrir, c'est peut-être plusieurs années que c'est là, mais je viens de le découvrir. Mais la proposition est vraiment intéressante pour découvrir de l'information ou en partager. Et finalement, le dernier truc que je voulais vous proposer, c'est un truc que j'ai vraiment découvert par hasard sur Chrome, lorsque vous êtes en train de naviguer sur un site. Alors, typiquement, vous sélectionnez la barre d'adresse en haut et vous tapez, exemple, je sais pas moi, lemonde.fr. On va y aller avec ça. Vous faites un tab, vous faites pas Enter, hein, vous appuyez pas sur entrée de votre clavier, vous faites vraiment un tab et automatiquement, en faisant un tab, vous allez tomber dans le moteur de recherche de Google. Bref, à partir du monde.fr, vous allez partir avec le tab, vous allez être capable de faire des recherches dans ce site-là. L'avantage, c'est que vous sautez une étape d'aller sur le site du Monde et de faire une recherche ou d'aller sur le site de Google et de faire une recherche sur lemonde.fr à partir de l'URL directement dans Google Chrome, vous êtes capable de fouiller dans lemonde.fr ou dans tous les autres sites que vous avez besoin sans voir directement les pages. Grosso modo, vous êtes le curseur dans la barre d'adresse. Vous tapez le nom du site web, le nom de domaine du site web que vous connaissez, vous appuyez sur Tab, et aussitôt après ça, vous mettez ce que vous voulez rechercher, et automatiquement, ça va rechercher dans le site que vous venez de mettre juste avant. Petit truc super sympathique pour retrouver des contenus directement dans les sites que vous connaissez d'avance. Alors, ça met fin à l'éclectique numéro 46. Je vous rappelle que vous pouvez aller me joindre directement sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez, dans les notes de l'émission, cliquer sur le lien pour vous abonner à la page de Mathieu le podcasteur. Vous pouvez, si vous êtes un peu plus timide et que vous voudriez me parler en privé, aller dans la section « Contactez-moi » et m'envoyer directement votre message. Et je vous rappelle vos devoirs pour les prochaines semaines. Ce serait d'apprendre, d'aimer et de partager. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao. Bye bye.